Bonsoir, c'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui à la librairie Mola Denis Cambouchner, qui d'abord est un spécialiste de Descartes, mais qui aussi s'est consacré tout au long de sa carrière à des réflexions extrêmement précises, et j'ajouterai pertinentes, sur l'école. Et cette année, il vient de publier « L'école », virgule, question philosophique, dans lequel il reprend un certain nombre d'essais et en ajoute d'autres qui sont inédits. Mais quand je parle de reprise, c'est que Denis Cambouchner procède à une relecture extrêmement minutieuse de ses écritures précédentes, et ce qui fait que le livre constitue une véritable unité grâce à cette reprise, une unité qui apporte une grande cohérence et aussi une très grande consistance. C'est un livre très précis, je répète, très dense, et qui se prête difficilement à des résumés. Nous n'avons pas affaire à un livre de circonstances, à l'occasion d'une énième rentrée ou d'une énième réforme, mais nous avons affaire à une réflexion de fond, qui est aussi proprement philosophique. Alors ma première question va être toute simple. Elle va porter sur le titre lui-même, l'école, virgule, question philosophique. En quoi l'école est-elle pour vous, Denis Cambouchner, une question philosophique ?
Merci d'abord à la librairie Mola de son accueil, et à vous, Francis Lipat, de votre lecture qui est intervenue très tôt après la parution de l'ouvrage. Je me souviens d'ailleurs d'être venu ici même il y a 13 ans parler de l'ouvrage précédent, Une école contre l'autre, le précédent ouvrage que j'avais consacré à la question. Et dans le fil duquel celui-ci s'inscrit, bien que le mode soit différent, puisque Une école contre l'autre n'était pas un ouvrage de polémique, mais était un ouvrage de discussion critique sur les textes de Philippe Mérieux, qui à cette époque avait une position très, très, très en pointe dans la politique de l'éducation en France, et donc texte que j'avais pris au sérieux et que j'avais essayé de discuter sans esprit polémique, et celui-ci, au contraire, cet ouvrage-ci s'adresse davantage soit directement à des problèmes fondamentaux, problème de l'autorité pédagogique et de sa crise, problème de l'école juste, qu'est-ce que ça peut être qu'une école juste, problème de la définition d'une culture scolaire. Dans certaines zones du livre, problème lié à l'irruption du numérique. Et en même temps, le livre redéploie une archive. Il y a toute une première partie sur des questions fondamentales et une deuxième partie qui est plus historique et qui remonte donc à tel ou tel grand, enfin, auteur important dans l'ordre de questions dont nous parlons. Donc ça va d'Erasme à Foucault, en passant par Rousseau, Diderot, Durkheim. Et ça n'est pas exclusif, il y a des vues sur des choses un peu antérieures ou sur d'autres auteurs. Donc le régime n'est pas le même, mais l'intention d'un ouvrage à l'autre reste la même. Alors, il s'agit bien de traiter en philosophe d'un certain nombre de questions relatives à l'école. En philosophe, ça ne veut pas dire pour les philosophes seulement, ça veut dire pour tout le monde, mais je soutiens que, globalement, des questions très importante parmi celles que pose le fonctionnement de ce qu'on appelle un système éducatif ou une institution scolaire, ces questions ne sont pas ordinairement traitées de manière assez philosophique, c'est-à-dire assez sérieuse. Si comme j'incline à le soutenir, on peut appeler philosophique tout ce qui est sérieusement pensé, tout ce qui est élaboré avec rigueur, ce qui fait que les philosophes de profession sont loin d'avoir le monopole de la philosophie, et que quelquefois ils sont trop peu philosophes par rapport dans leur production, mais ça c'est une autre question. Donc ce à quoi nous avons affaire, c'est à un effacement préoccupant de la réflexion philosophique sur l'école en tant que tâche de premier plan. Il existe naturellement des travaux d'excellente qualité en philosophie de l'éducation, mais dans des cercles relativement restreints. Mais nous, apparemment, enfin tout se passe comme si le problème du devenir des formes de l'éducation et donc des institutions d'éducation qui a préoccupé toute une lignée de penseurs depuis l'Antiquité dans la première moitié du XXe siècle. Tout se passe comme si, depuis plusieurs décennies, l'éducation, particulièrement sous sa forme scolaire, avait disparu du domaine des problèmes philosophiques de premier plan. Je trouve ça extrêmement dommageable, et le titre un peu manifeste comme ça de cet ouvrage veut attirer l'attention sur cette tâche. Il ne s'agit pas pour moi de produire une philosophie de l'école, ce qui serait tout à fait présomptueux et déplacé. La tâche, de toute manière, d'une part, il s'agit de songer à des tâches collectives, et d'autre part, nous n'avons pas besoin, à proprement parler, d'une philosophie de l'école, c'est-à-dire d'un système de principes très, très constitué et à dimension normative. Non, nous avons besoin d'une réactivation, d'une efflorescence nouvelle de la réflexion philosophique sur l'école. Et donc c'est des exemples de cette réflexion que j'ai essayé de donner avec diverses dimensions. Cette réflexion tourne nécessairement en grande partie autour de la question du statut du savoir et de la culture aujourd'hui.
Oui. Dans votre livre, il y a, en ce qui concerne l'école, un certain nombre de repères que l'on pourrait qualifier d'historiques, oui, qui remontent en effet à l'Antiquité, notamment aux Grecs, bien sûr, d'une part, mais aussi à Cicéron. Et ensuite, vous abordez la question, alors bien sûr, il y a aussi une école au cours du Moyen-Âge, très importante. Puis ensuite, la question de l'école, vous la reprenez à la Renaissance, notamment avec Érasme. Vous citez Montaigne, bien sûr, même si vous ne consacrez pas d'articles spécifiques à Montaigne. Et ensuite, l'école, alors j'ai noté aussi que dans votre article à propos de Foucault, vous insistez sur la notion de discipline, notamment qui apparaît au XVIIe et XVIIIe siècle, quelque chose de très important. Et je dirais que l'école, ensuite, évolue aussi avec l'avènement de systèmes démocratiques. Quand l'école n'est plus, offerte ou proposée à des enfants ou à des jeunes de milieux favorisés, nobles, comme c'est le cas d'ailleurs chez Montaigne, puisque Montaigne cherche un excellent précepteur pour un élève unique, hein, il ne s'agit pas là d'une école, mais ensuite donc quand l'école se démocratise, disons, et notamment en France, sous la Troisième République, avec Jules Ferry, etc., là, on s'aperçoit que les questions de l'école sont posées à nouveau frais. Hein. Et j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant l'article que vous consacrez à Émile Durkheim. C'est un article extrêmement fouillé et extrêmement, je dirais, nuancé aussi, d'ailleurs, puisque Durkheim est certes un sociologue, le fondateur de la sociologie française, en quelque sorte, mais sa pensée ne se borne certainement pas à ses traits, disons, sociologiques. Donc, il y a une histoire de l'école, et l'école est en même temps quelque chose de varié, de variable, et certainement que aujourd'hui, au XXIe siècle, l'école est encore autre chose. Enfin, autre chose. Disons que, l'école est en quelque sorte universelle aujourd'hui. Tous les enfants passent par le système scolaire, par l'école. Mais d'un autre côté, et c'est là peut-être que le problème est compliqué ou complexe, en définitive, les attentes, vous prononcez ce mot d'attente d'ailleurs, les attentes de l'école sont variées. D'une part, chez les élèves, bien sûr, mais aussi chez les parents d'élèves, mais aussi chez les professeurs, l'administration, etc. Alors, est-ce que vous pourriez préciser peut-être cette évolution du statut même de l'école à travers les sociétés et les siècles ?
Ça, c'est un objet qui, c'est d'abord un objet historique qui dépasserait beaucoup mes compétences à tous égards. Je peux difficilement me prononcer sur l'évolution, le devenir de l'institution scolaire en général. Simplement, oui, peut-être. Durkheim, effectivement, m'a intéressé à divers titres, et notamment parce que, historiquement parlant, il fait partie de, disons, c'est la génération qui vient immédiatement après les fondateurs de l'école de la Troisième République. Et il faut souligner, donc il n'est pas là en 1880, il est trop jeune, mais il est là en 1900, et notamment on considère son grand cours sur l'éducation morale comme datant de la même année que la grande réforme de l'enseignement secondaire, celle de 1902, qui théoriquement met fin à l'hégémonie du latin en créant des voies modernes, au moins une voie moderne sans latin au lycée à côté des enseignements classiques. Et il s'agit d'un moment, le moment 1902, un moment extrêmement important dans l'histoire de l'enseignement secondaire, qui est aussi important dans l'histoire de l'enseignement secondaire que le moment 1881-83 dans l'histoire de l'enseignement élémentaire ou primaire. Et quand on regarde les textes de cette époque, on mesure d'abord la grande ampleur du débat, des discussions en France à ce sujet, en France, mais elles sont contemporaines, par exemple, de discussions extrêmement vives aux États-Unis sur les mêmes sujets. On se rend compte de l'ampleur de ces discussions et aussi du degré d'engagement intellectuel des membres les plus éminents de l'université dans les questions d'enseignement général, et aussi du soin que quelque cause qu'ils défendent, ceux qui interviennent à ce moment-là dans ces débats mettent, aussi bien que ceux qui sont chargés d'organiser des réformes, mettent à argumenter et à préciser les moindres choses. Ce sont des textes de très grande qualité, aussi bien les textes qui sont dirigés contre le système d'enseignement traditionnel, le lycée du XIXe siècle, globalement encore hérité des jésuites, aussi bien cela que, donc, aussi bien du côté des partisans d'un enseignement moderne que du côté des défenseurs de l'éducation classique, c'est-à-dire à base de langues anciennes, sont des textes de très grande qualité. Et le Durkheim m'a intéressé parce qu'il a une pensée assez profonde, non seulement s'agissant de l'éducation morale, mais s'agissant de... Donc, dont on devrait d'ailleurs relire certains, on devrait relire certains passages aujourd'hui du cours en question, mais s'agissant de l'histoire de l'enseignement secondaire et du problème de la culture à offrir au moment où il se situe. Et en même temps, il y a des impasses qui sont marquées parce que Durkheim fait partie des dénonciateurs du système d'enseignement classique à base de langues anciennes et de rhétorique. Il pense qu'on doit proposer autre chose, il pense qu'on doit proposer un enseignement d'esprit scientifique, il n'est pas du tout le seul, et puis en même temps il admet qu'il faut une culture des mots, il faut un apprentissage du langage, et l'apprentissage d'un usage fin du langage, mais chez lui, cet apprentissage reste sans définition vraiment précise, au moins pour ce qui nous a été conservé. Il y a des cours de Durkheim sur l'éducation intellectuelle, mais qui ont été perdus, hein. Sans définition précise. Et le rapport entre la culture des langues, hein, et l'étude des textes, chez lui, n'est pas précisé. Et c'est intéressant, je trouve, par rapport, parce que les sociologues d'aujourd'hui, avec leur combat propre, sont tous d'une certaine manière des héritiers de Durkheim. Certains partis sociologiques représentent une prise de position très marquée en faveur de systèmes d'éducation moderne, enfin de formes modernes de l'éducation contre des formes plus classiques. Donc il y a un côté rejet des formes classiques de l'éducation et du type de l'éducation humaniste qui est très, très inscrit dans un certain nombre de prises de position et donc dans le paysage qui est encore le nôtre. Et donc le problème qui n'est pas résolu chez Durkheim reste non résolu aujourd'hui encore. C'est-à-dire, s'il faut doter les élèves non seulement de capacités, compétences, mais de leur apporter un langage, un vocabulaire, ou renforcer, en tout cas, diversifier leur langage, quel rapport est-ce que cela suppose avec les œuvres et les produits du passé? C'est un des problèmes majeurs, et une des thèses de ce livre, c'est que si notre institution scolaire ou notre système éducatif, comme on veut, va globalement si médiocrement, il y a beaucoup d'explications à donner, mais il y a aussi l'embarras par rapport à la définition de la culture à communiquer. Et notamment, on sait bien, dans certains des pans entiers de l'institution scolaire et même dans certaines institutions de formation des maîtres, un langage qui est globalement dirigé contre, qui déprécie globalement les formes de la culture classique. Et je ne dis pas qu'il s'agit de revendiquer par rapport à certaines dénonciations hâtives, une validité pleine et entière conservée des modèles d'éducation tirés du passé. C'est pas du tout ça. Mais il est essentiel à l'éducation scolaire de ne pas avoir d'objet négatif. C'est-à-dire de ne pas tracer d'exclusive. Dès qu'on veut concevoir une éducation scolaire qui s'abstienne de laisse de côté des choses qui auraient été auparavant valorisées, je ne parle pas des questions de méthode, mais des questions d'objet, dès ce moment-là, il y a une espèce de crispation et de mauvais fonctionnement qui s'établit. Et je crois qu'il existe un malaise dans la culture ou un malaise par rapport au savoir qui caractérise, de par son histoire, l'école française, et avec quoi, d'une manière ou d'une autre, il faut tâcher de dénouer.
Et en effet, vous consacrez quelques pages aux travaux de philosophes américains,
oui,
à peu près à la même époque, dans lequel ceux-ci insistent sur un système d'enseignement ou de formation qui soit dynamique et qui soit créatif. Notamment l'œuvre de John Dewey, par exemple. Oui. Est-ce que vous pourrez un peu en dire quelques mots ?
Oui, alors, lorsque il s'est trouvé que j'aurais voulu consacrer un chapitre entier à Dewey, et puis un peu pressé par les éditeurs ou éditrices qui pensaient que nous devions être à l'heure d'un grand débat sur l'école, qui finalement s'est réduit à un débat sur le mercredi. J'ai voulu boucler, et donc pas vraiment de chapitre sur Dewey, dont l'œuvre, d'ailleurs j'ai commencé à explorer l'œuvre, mais cette exploration est encore devant moi. John Dewey, qui est mort qui a dû naître en 1869, si je ne me trompe, et qui est mort en 1952, c'est le grand penseur américain de l'éducation, grand penseur américain tout court de beaucoup de choses, mais particulièrement de l'éducation, et son œuvre surplombe le XXe siècle, notamment à cause de ses très nombreuses... elle a essaimé dans le monde entier, y compris en Union soviétique ou au Japon. Et Dewey est le penseur de l'éducation démocratique. Il est un penseur qui estime qu'il faut en finir avec un système d'éducation qui réserve les études secondaires à une toute petite minorité, minorité à qui l'on fait pratiquer justement les œuvres du passé, et les langues du passé, et qu'il faut d'une manière générale faire en sorte qu'entre l'enfant et ce qu'il a assimilé, il n'y ait plus cette distance qui sépare l'enfant normal hein, de tout l'édifice de la culture classique, distance dont on sait qu'elle sera, au départ qu'elle sera franchie par certains mais pas par d'autres, hein, et que l'éducation d'une société démocratique doit intégrer la dimension technique. Non pas renoncer à l'introduction aux grandes productions de l'esprit, mais en même temps intégrer la culture, la dimension culturelle des techniques, des travaux appliqués. Hein. Et donc Dewey construit une école dans laquelle d'abord l'essentiel c'est de faire et pas de mémoriser, hein, et dans laquelle il s'agit toujours de partir des dispositions de l'enfant et des directions de son action pour l'amener à la connaissance la plus large possible. Tout ça sur un mode souple, non anxiogène, interactif, si on veut employer ce mot qui s'imposera plus tard. Donc c'est ça, une école démocratique. Et ces idées, donc c'est l'idée de l'éducation nouvelle telle qu'elle s'est répandue partout en Europe et au-delà de l'Europe. Alors ce sont des textes très très intéressants sur lesquels à mon sens la réflexion critique a manqué jusqu'à présent, enfin est restée insuffisante. Et en même temps, bon, ça, outre les problèmes de concepts qui sont abordés par les philosophes, il y a des problèmes de faisabilité qu'on rencontre s'agissant du projet deweyien. Et c'est le même problème que posent beaucoup de théories pédagogiques extrêmement séduisantes, à savoir à petite échelle, oui, ça fonctionne. Mais à grande échelle, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc les théories séduisantes de Dewey se sont attirées beaucoup d'objections aux États-Unis même, en fonction d'une application qui n'a d'ailleurs, enfin, a été assez délayée, mais qui ne donnait pas les résultats qu'on en attendait. Et d'une manière générale, on trouve chez Dewey le problème moderne par excellence, à savoir, d'accord, on part de l'enfant, on met l'enfant au centre, selon la trop célèbre expression. Enfin, c'est pas son idée. L'idée, c'est qu'on doit partir de l'enfant et des dispositions présentes de l'enfant. Il ne dit même pas ses besoins ou ses intérêts comme s'ils étaient d'emblée délimités. Il faut s'abstenir de délimiter, au contraire, ses besoins et ses intérêts. Et puis, il faut le conduire vers les grandes choses qui sont la matière des studies. Mais Dewey est lui-même conscient du fait que la tâche est extraordinairement difficile, qu'il renforce la difficulté de la tâche du maître par rapport aux tâches traditionnelles. Et donc, il y a un problème d'applicabilité, c'est-à-dire il y a un problème à partir du moment où on veut partir de l'enfant pour le diriger sans heurts vers de manière comment dirais-je, non autoritaire, hein, en diminuant le poids des prescriptions ou en ôtant le poids des prescriptions vers tels et tels objets, quelles normes mettons en œuvre? Et comment est-ce que l'institution scolaire, dans sa nouvelle forme, qui n'est plus instituant à proprement parler, retrouve une normativité, un fonctionnement relativement régulier et intégré. C'est tout le problème. Et c'est le problème, c'est un problème qu'on retrouvera aujourd'hui avec ce qui occupe le premier plan de l'actualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la classe inversée. Vous avez certainement eu vent de l'ouvrage de Salman Khan, pompeusement intitulé « L'éducation réinventée », et qui, à propos de la Khan Academy et des vidéos, enfin de la pédagogie par petits clips vidéo, c'est beaucoup moins élaboré que Dewey. C'est techniquement très élaboré, mais conceptuellement beaucoup moins. Et on retrouve le problème de savoir, par rapport à des gens qui nous disent « bon, chacun va apprendre chez soi et puis la classe va être le lieu où on met tout ça en commun, où on résout les difficultés individuelles et puis chacun fait son propre parcours ». La question est comment est-ce que ça peut fonctionner globalement. Et il y a un rapport, me semble-t-il, entre le problème du fonctionnement institutionnel global et le problème de la norme intellectuelle, c'est-à-dire de ce qu'on estime devoir être acquis, avec nécessairement une pression pour que ce soit acquis.
Oui, la difficulté, c'est d'articuler ce souci de l'individu, de la personnalité singulière, à la limite de l'enfant, et le groupe classe, et le nombre.
Oui.
Et le nombre.
Oui.
Et c'est là que les conditions sont difficiles. Quand on a affaire à des classes de 35 élèves, oui, les conditions d'enseignement, forcément, ne sont certainement pas faciles. Hein. Même, on est à la limite de l'impossible, même, là, pour prendre en compte les individus, connaître leur nom, s'adresser à eux par leur prénom, etc. C'est là qu'il y a une difficulté. Et pourtant, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il me semble que c'est très important pour l'enseignant de nouer ce rapport personnel avec chaque élève, de l'identifier, de lire correctement ses copies, par exemple, en entier, en y mettant beaucoup d'annotations, même si ça prend beaucoup de temps. Ça me paraît très, très important. Alors, il y a aussi, si on en vient aux méthodes, peut-être un petit peu, il y a un mot ou deux mots, peut-être, que je voudrais reprendre. C'est un mot, d'ailleurs, qui se trouve dans votre dernier article, tout à la fin, à propos d'Erasme. Mm-hmm. Vous reprenez le mot de repuesquere, d'Erasme. D'ailleurs, vous citez aussi des mots d'éjouissance, de montagne, etc. Et ça me paraît être un élément très important des méthodes pédagogiques, ceci, de mettre l'enfant en confiance, de le dynamiser. Bon, tout à l'heure, vous l'avez dit, de ne jamais bloquer en quelque sorte, en éliminant certains aspects, en sanctionnant, mais au contraire, toujours à essayer de susciter une dynamique, finalement. C'est ça qui est très important, susciter une dynamique qui soit à la fois une dynamique personnelle chez l'élève, mais qui soit aussi une dynamique collective aussi dans le groupe classe. Alors, bon, donc alors est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur sur ce terme de repuesquere?
Oui, ben, beaucoup. on pourrait repartir de l'état de l'école en France. D'une part, il y a un malaise avec ce qui doit être enseigné, et d'autre part, il y a beaucoup d'angoisse, hein, et beaucoup de crispation, malgré tous les efforts d'humanisation, d'adoucissement des dispositifs institutionnels qui ont été menés au cours des dernières décennies. Je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'angoisse et de crispation, c'est que les différents partenaires, acteurs, ne sont pas assez convaincu profondément d'avance que le savoir, c'est gai. Ben oui, alors Nietzsche, Montaigne, enfin beaucoup d'auteurs, que tout ça c'est une affaire des jouissances, pour parler comme Montaigne. Et si Erasme vient effectivement à la fin avec son repuerescere, qui est une expression difficile à traduire, très spécifique, il y a une histoire qu'on trouve d'ailleurs chez Cicéron et puis aussi chez certains auteurs chrétiens. Le repuerescere, Erasme explique que la première condition, il s'agit du cadre de l'éducation privée préceptorale, avec précepteur. Erasme explique dans son traité intitulé qu'il faut donner très tôt aux enfants une éducation libérale, mais une éducation humaniste assez costaud quand même. Libérale, c'est-à-dire dans les arts libéraux et dans les choses dignes d'un homme libre. Donc Erasme écrit « Pour que le précepteur soit aimé de l'élève, de son élève, et il n'y a pas de bonne éducation sans affection, sans que l'élève aime son maître, il faut que le précepteur repuerescat, c'est-à-dire, c'est pas refasse l'enfant, non, se mette à faire l'enfant, mais il faut qu'il retrouve en soi l'enfant, c'est-à-dire il faut qu'il, d'une certaine manière, il fasse passer un élément de jeu dans un programme, par ailleurs, chargé. Parce qu'il s'agit d'apprendre les langues, de fréquenter des bibliothèques entières, et surtout de ne pas perdre de temps. Pour Erasme, qu'est-ce que vous voulez que les enfants fassent d'utile en dehors d'apprendre ? Il a peut-être raison, au fond. Bon, mais c'est-à-dire, son idée est que si on perd trop de temps dans les premières années, si on ne met pas l'enfant au contact des belles choses très vite, c'est fichu. Et peut-être que si on a tant de mal à tenir les classes, c'est aussi ça. Et donc, il y a un coefficient de jeu qui entre dans la pédagogie erasmienne, par ailleurs exigeante, mais un coefficient de jeu, et c'est d'esprit, au sens mot d'esprit, au sens de fantaisie, sans doute, et c'est ça, c'est une chose qui me semble aller avec les plus hautes formes de la culture. Les gens qui sont les plus épanouis dans un domaine donné et peut-être les plus performants, comme on dit aujourd'hui, sont aussi ceux qui jouent avec leurs objets et aussi ceux qui vagabondent, ceux qui savent, donc ceux qui sont pas prisonniers de cadres trop stricts. Je pense que cette dimension-là, elle doit être beaucoup remise en avant et que pour ça, on est loin du compte. C'est-à-dire que on peut humaniser tant qu'on voudra les dispositifs scolaires, mais si les maîtres sont donnent l'image de la crispation, d'une espèce de crispation, par exemple intellectuelle. Si la substance de l'enseignement n'est pas là, ou la substance de l'action pédagogique n'est pas là, on n'aboutira à rien, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans une autre partie du livre, j'appelle l'arbitraire pédagogique. Et l'arbitraire pédagogique, c'est un facteur de désordre, y compris de violence, redoutable. Et donc, ça se tient.
Donc il faut les deux. Il faut à la fois cette éjouissance, en quelque sorte permanente, dans l'action pédagogique de l'enseignant à l'égard des élèves, mais il faut aussi qu'il y ait l'accès à ce que vous appelez le meilleur.
Oui,
le meilleur, tout à fait. Mais un meilleur qui soit présenté comme désirable, en quelque sorte.
Absolument.
et source de jouissance, et pas simplement donnant lieu à des évaluations-sanctions, en quelque sorte.
Mais en principe, les enfants sont très exigeants.
Bien sûr.
C'est-à-dire on les assomme avec des productions de mauvaise qualité, notamment à la télévision ou autre chose, les dessins animés, câblants, etc. Mais en principe, les enfants élevés dans des conditions un peu normales savent reconnaître ce qui leur parle, hein, de distinguer de ce qui ne leur parle pas. Et ils ont envie de luxe, hein, enfin d'un luxe de l'imaginaire, hein, et des mots eux-mêmes. Hein. Et donc si on n'entreprend pas de leur apporter un peu de ce luxe, ça ne marchera pas. Ça marchera encore moins aujourd'hui qu'hier, et même avec les ordinateurs, ça ne marchera pas. Et de la même manière, c'est une chose à la fois extrêmement connue et scandaleusement ignorée, que les bienfaits que les élèves, même ceux qui, ce qu'on appelle les décrocheurs, reçoivent de l'expérience du théâtre. Pas de n'importe quoi. Non. Mais on les met dans un rôle un peu structuré, avec un langage qui est un peu de qualité. Tous les témoignages disent que ça les transforme. Enfin, ça résout par soi-même, peut-être pas de manière, pas pour des années, mais ça les réconcilie avec l'ordre symbolique, disons. Non. Dans lequel se situent les études. Donc ça les fait revenir vers le savoir. Or, c'est extraordinairement sous-exploité. Le théâtre, bon, alors il y a tous les projets pour le mercredi, mais le théâtre, la musique, des expériences esthétiques fortes devraient être la base même de l'éducation scolaire dès les premières
et dans des pratiques d'atelier, en quelque sorte. Les élèves étant à l'œuvre, en quelque sorte,
oui,
à la tâche.
Tout à fait.
Faisant. Alors, vous m'avez fait connaître un auteur que je ne connaissais pas et que j'ai lu grâce à vous. C'est l'auteur dont vous citez l'exergue, que vous citez en exergue au tout début, qui s'appelle Henri Rorda, à travers un livre qu'il a intitulé « Le pédagogue n'aime pas les enfants », un livre publié en 1917. Et voici cette phrase « Hélas, l'école ne rend pas fertiles les esprits qu'elle cultive. Pour cela, il faudrait les remuer plus profondément et leur donner des aliments meilleurs. » Je trouve que cette phrase est magnifique. D'abord, parler de rendre les esprits fertiles. Ça, c'est fondamental. Rendre les esprits fertiles. Y a-t-il d'autres missions éducatives et d'enseignement que celle-là ? Rendre les esprits fertiles. Et les moyens qui sont donnés, c'est d'une part les remuer plus profondément. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose de superficiel.
Oui, il faut s'adresser à eux.
Absolument, oui. et en profondeur, sur des choses essentielles. Et en même temps, leur donner des aliments meilleurs, parce que souvent, les aliments qu'on leur donne, que certains leur donnent, ou à certains moments, sont des aliments, finalement, de peu de qualité, oui, ou de qualité décevante.
C'est le problème des cantines. Le problème de l'école, c'est le problème des cantines. C'est-à-dire, de même qu'on donne à midi du médiocre, on donne le matin, l'après-midi, pas toujours le meilleur. Hein. Voilà. Il faudrait. Mais oui, Rorda, oui, le pédagogue n'aime pas les enfants. C'est le pédagogue, c'est le professeur ordinaire. Hein. C'est pas celui qui réfléchit sur la pédagogie. C'est le professeur ordinaire qui dit-il n'aime pas assez les enfants ou l'école elle-même qui n'aime pas assez les enfants. Et ça communique avec la deuxième citation qui est de l'exergue, qui est de Martin Nussbaum, qui défend l'éducation humaniste aux États-Unis par rapport à toutes les forces qui tendent à la contingenter, comme ce sera le cas peut-être ici un jour prochain.
Et aussi la troisième, d'ailleurs.
Oui, et le Martin Nussbaum évoque un groupe d'enfants, c'est le cœur d'enfants de Chicago, en milieu afro-américain, un groupe d'enfants qui, un jour, le professeur de cette
chorale,
chargé de cette chorale, passe par là et les entend répéter un motet de Bach comme ça. Et elle leur dit, mais vous faites un supplément aujourd'hui de travail. Alors il lui dit, non, on se détend, on joue. Un motet un peu difficile, un passage que ces enfants répétaient pour le plaisir. Alors, il n'y a rien d'impossible en cela. C'est-à-dire, si les éducateurs font ce qu'il faut, ça donne cet effet-là. Alors, il y a des problèmes d'échelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer sans utopie que toute l'école, toute l'institution scolaire d'un pays comme le nôtre se mette à ce diapason-là ? Bon, difficile à dire. Mais au moins, c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller.
Alors, je voudrais aussi, enfin, j'étais sensible aussi à un autre aspect. Bon, d'abord, il y a un passage que je trouve magnifique dans votre livre. C'est le passage qui concerne ce que vous appelez le fait du bon professeur. Et là, vous donnez toute une liste d'éléments qui, d'après vous, sont en quelque sorte des critères permettant d'évaluer le bon professeur. Et je trouve ce passage absolument délicieux. Et en même temps, il est extrêmement précis. Et je trouve que c'est un passage d'une extrême richesse parce que vous y abordez des choses très précises, très concrètes, et vraiment, je pense qu'il y a de la graine à prendre là-dedans. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu ?
Alors, il faudrait le relire. C'est une chose. C'est ce portrait du bon professeur que je désigne, que j'évoque comme ça, comme étant constitué dans le style d'Aristote. Aristote, dans ses livres de morale, l'Éthique à Nicomaque ou d'autres, dit voilà, alors l'homme magnanime, celui qui a une grande âme, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il aime les honneurs, mais pas trop. Il se comporte de telle manière, il agit toujours comme s'il il parle et agit au grand jour, etc., etc. Et puis il dresse une liste de comment cet homme à la grande âme se comporte dans telle et telle circonstance. Et donc c'est ce qui m'a servi de modèle. C'était très très facile à écrire. C'est l'un des passages du livre que j'ai. C'était dans une, d'ailleurs, repris d'une conférence préparée elle-même dans des délais un peu serrés. Et ça ne m'a donné aucun mal. J'ai ensuite un peu peaufiné en rajoutant des choses, mais ça ne m'a donné aucun mal. Parce que j'ai l'impression de dire des choses qui coulent de source. Alors, critères pour l'évaluation, non. J'essaie simplement de décrire l'image du bon professeur que nous avons tous en nous, que nous soyons professeurs ou pas. Et si nous le sommes, ça ne veut pas dire nécessairement que nous soyons conformes à cette image. Le bon professeur parle de manière claire et nette, avec une assurance qui repose sur beaucoup de travail, y compris de travail sur soi. Il fait ce qu'il dit, peut montrer un certain coefficient de détachement par rapport à ce qu'il fait. Il sait ce dont il parle, sur les matières qu'il a en charge et qu'il aborde directement, il n'est pas pris en défaut. Il en connaît d'autres, il connaît l'histoire, etc. La personne qui s'est enseignée, il n'y a pas de raison d'en rester au masculin dans cette affaire-là. S'assure ponctuellement qu'elle est comprise, elle répond aux questions, elle parle pour tous ses élèves et pas seulement pour quelques-uns, etc. Le bon professeur traite ses élèves avec énergie, mais aussi avec gaieté, en tout cas sans brutalité. Il connaît la vie, etc. Bon, ça tombe sous le sens. La chose bizarre, c'est que ça ne soit pas... Si ça ne soit pas enseigné tellement que ça tombe sous le sens.
Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder. On ne peut pas réduire non plus l'école au dialogue, si je puis dire, entre le professeur et les élèves. Il y a d'autres personnes qui sont très importantes et je trouve que vous consacrez des pages extrêmement intéressantes à ce qui précède l'inscription d'un élève dans un établissement et aussi ce qui suit de la part de l'administration. Je pense que pour vous, le moment de l'enseignement ne peut pas être séparé de moments et d'actes qui le précèdent et qui le suivent. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions là-dessus ?
Oui, c'est-à-dire il y a la dimension, si vous voulez, dans le problème de l'école tel qu'il se pose chez nous aujourd'hui, il y a une dimension intellectuelle et même philosophique. Hein, il y a aussi une dimension extrêmement pratique. Alors, tenir les classes, etc., et puis comment gérer les élèves. Donc il y a des dimensions de liées au type d'ordre qu'on peut faire régner dans les établissements. Il y a la dimension de la relation entre l'école et les familles. Et c'est toute une affaire. Je ne pense pas que cette affaire-là soit sans communication avec l'autre. C'est-à-dire, pour que la relation avec les familles soit efficiente, hein, pour qu'on arrive à scolariser les enfants dans de bonnes conditions, tous, hein, pratiquement, enfin, sauf problème lourd. Pour qu'on arrive à les scolariser dans de bonnes conditions, scolariser s'entendant au sens fort, c'est-à-dire à les acclimater au monde de l'école. Pour ça, il faut que l'école, que l'institution scolaire parle aux familles bien davantage qu'elle ne leur parle aujourd'hui. Il faudrait d'une manière ou d'une autre une sorte d'école. Il faut mettre les parents à l'école d'une manière ou d'une autre. Et je ne parle pas simplement de ceux qui, de populations dites défavorisées. Il y a aussi des parents tout à fait favorisés qu'il faudrait quand même mettre à l'école. Et en tout cas, il faut leur parler. Il faut leur dire, voilà, il faut leur parler, il faut les aider. Il est absolument impossible de déconnecter le problème de la politique scolaire, les problèmes de l'école, de la politique sociale et de la politique de la ville. C'est une tartufferie de faire comme si l'école devait gérer par elle-même, pouvait résoudre par elle-même ou neutraliser en elle-même toutes les difficultés de la société. C'est une tartufferie. Donc, mais pour parler aux familles, il faut savoir ce qu'on a à leur dire. Et donc, il faut une espèce de, je dirais presque une culture philosophique quand même. Enfin, il faut qu'un certain nombre de questions soient traitées au sein de la formation des éducateurs, des cadres, etc., sur une base qui ne soit pas purement... instrumental ou doctrinaire, encore moins. Il faut que les éducateurs, les chargés de l'éducation, aient réfléchi par avance à ce qu'on doit dire, à ce qu'on peut dire dans tel et tel cas, hein, et que ce soit un vrai discours. Le succès à la fois plus limité qu'on l'imagine quelquefois, mais réel de l'école de la Troisième République, tenait à la qualité du discours institutionnel, en même temps qu'à la qualité de l'organisation elle-même. Il y a toute cette élaboration qui est, théoriquement est devant nous, en même temps que bien entendu, il s'agit d'organiser. C'est le chapitre sur l'école juste où je discute notamment l'approche de François Dubet et de Marie Durubella. Et le point consiste de ma part, à faire valoir que on ne peut pas traiter abstraitement le problème de l'école juste en essayant de départager des principes de justice très généraux. L'école juste, c'est celle qui remplit bien ses fonctions. De ce point de vue-là, c'est platonicien. L'école juste est celle qui remplit bien ses fonctions. Quelles sont ses fonctions fondamentales ? Ou quelles sont ses opérations ? Alors, il y en a une qui consiste à accueillir, il y en a une qui consiste à apporter, il y en a une qui consiste à demander, et il y en a une qui consiste à décider. La fonction décisionnelle de l'école, elle peut être retardée, mais elle existe quand même à la fin. Mais ces fonctions sont hiérarchisées. Il y a un ordre dans ces fonctions, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'accueillir. Et qu'est-ce que c'est qu'accueillir ? Donc il faut que l'accueil, évidemment, est indissociable de l'apport. On n'accueille qu'en apportant. Mais en même temps, il faut demander en accueillant. Mais tout ça est lié, mais il y a quand même un ordre. Des relations fines entre ces diverses dimensions. Mais enfin, c'est l'accueil qui est la première chose. Accueillir les enfants à l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment organiser cet accueil pour tous ? C'est le problème.
Enfin, je voudrais vous poser une question à propos de Michel Foucault. Vous citez à la fin Michel Foucault, c'est le dernier auteur auquel vous faites référence, dans la modernité. J'ai noté, par exemple, une interview que j'ai trouvée assez remarquable de Michel Foucault par Jacques Chancel. Et j'ai trouvé d'ailleurs que les questions de Jacques Chancel étaient particulièrement fines et excellentes. Et les réponses de Michel Foucault, bien sûr, aussi. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu ?
Oui, c'est un chapitre très, très, très ambivalent, parce que Foucault est un penseur de grande envergure. Que, à la vérité, je porte les 10 écrits, au moins le premier volume, donc ses contributions notamment des années 60-70, plus haut que ses ouvrages publiés.
Vous en faites un équivalent des essais de Montaigne.
Oui, ces ouvrages publiés sont tous, me semble-t-il, d'une certaine manière un peu trop fabriqués. Là, les 10 écrits, c'est un Foucault en liberté avec une culture, une inventivité extraordinaire, une acuité extraordinaire. Et en même temps, les déclarations de Foucault écrit peu dans ses ouvrages publiés sur l'école. Les seules choses qu'on puisse trouver vraiment, c'est d'en surveiller et punir, où l'école figure entre la caserne, l'usine et la prison. Foucault traite l'école comme une institution disciplinaire.
Alors qu'après, il parle d'une érotique de l'école, en quelque sorte.
Non, il y a une érotique de la relation d'enseignement. Oui. Mais c'est une érotique très... Alors, c'est une érotique antique, qui se retrouvent dans certaines situations scolaires ou universitaires. Et cette érotique justement, elle a lieu chaque fois que les élèves font cercle autour du maître. C'est très masculin, d'ailleurs. Mais dès qu'ils sont rangés en classe, il n'y a plus d'érotique du tout. Chacun a son rang. Il y a un dispositif optique, panoptique, de surveillance, d'assujettissement, qui a peut-être son érotique propre, mais elle est un peu plus perverse que l'autre. Bon. Et d'un bout à l'autre, même des dits et écrits, il y a ce clivage, c'est-à-dire une vision extrêmement négative de la part de Foucault de l'univers scolaire, qui est un univers gris, pas intéressant, avec des disciplines qui sont pas des disciplines en même temps au sens le plus éminent du terme. Je veux dire, il y a un concept épistémologique de la discipline chez Foucault, mais qui s'applique pas véritablement au savoir scolaire. Et le professeur ne fait rien d'intéressant, ne dit rien d'intéressant, il n'est personne à proprement parler, il se contente de reproduire. Alors, d'une certaine manière, on peut faire le rapport avec Bourdieu. Il n'y a pas chez Foucault l'idée de l'école de classe, c'est pas ça, c'est le dispositif d'assujettissement généralisé, mais il y a la même vision négative de la profession, enfin de l'ordinaire de l'enseignement, que chez Bourdieu, qui est moins catégorique, mais pas beaucoup plus. Et c'est un gros problème que ces grands auteurs nous aient légué ça. Foucault n'imagine pas qu'il y ait une espèce de positivité intrinsèque de l'enseignement, que ça puisse échapper à la dimension dont il s'agit. Donc, et ne cherche pas comment les dimensions effectivement disciplinaires que l'école de 1900, supposons 70, a gardé, et qui sont effectivement quelque chose. Bon, faut essayer de faire le détail. Mais il ne cherche pas comment ça pourrait évoluer vers un système plus
oui.
Répu et récent, disons.
Parce que Foucault, finalement, sépare la dimension de recherche de l'acte d'enseigner.
Oui, oui, c'est une des choses frappantes chez lui, cette espèce de... Alors, pour le coup, il y a une différence de classe, quand même. Le prof, c'est un petit prof. Et le chercheur, alors, on peut se mettre à chercher, mais à ce moment-là, on n'enseigne plus. Bon. On ne fait pas partie. Et donc, il n'y a pas. Foucault dit oui, bon, tout ça est en train d'éclater, dans la suite de 68. Tout ça est en train d'éclater. L'université, ça explose. Mais il ne cherche pas comment un système pourrait évoluer, de sorte que son héritage, à cet égard, est négatif. Il donne sans doute des leçons de liberté d'esprit, bien entendu, mais son héritage est négatif et ça fait partie des choses qui sont tout de même indiquées au début du livre, c'est-à-dire cette espèce de distance marquée par les plus grands esprits par rapport à la chose scolaire dans l'époque peut-être la nôtre, en tout cas celle qui a précédé, avec quoi il s'agit.
Et grâce à vous aussi, je me suis mis à lire la très belle préface écrite par Jean Terrel et Guillaume Leblanc à un colloque qui était consacré justement au cours du Collège de France de Michel Foucault, alors que ses cours commençaient à être publiés. Mmh. Et bon, j'en ai parlé avec Jean Terrel, justement, et je trouve que ils ont commencé à creuser quelque chose de passionnant là-dessus, mmh. hein, sur cette écriture de Foucault et sur cette question, justement, du rapport entre recherche et enseignement.
Oui. Merci.
Merci.